Hé, hey, rapido! Ouais, Razmo!
T'as un sorcier, un rythme endiablé.
Yes, we can.
Ce compoton bavard!
J'aime me beurrer la biscotte.
Un pickle ray!
Ouais, c'est pas faux.
Pop culture.
Et ça, c'est sur Pulpe, votre émission de la pop culture.
Ça fait beaucoup là, non?
Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Pulpe, votre émission de pop culture. Je suis Gonvel et je suis toujours accompagné de mes acolytes Justin et Titouan. Alors, Liam ne pourra pas être présent suite au confinement, étant donné que nous faisons cette émission chacun chez soi. Il n'a pas pu venir pour cette émission et je pense qu'il ne pourra pas venir pour les autres émissions tant que le confinement sera présent. Mais en tout cas, je suis toujours accompagné de Titouan et Justin. Comment ça va, les gars?
Bah, ça va, écoute, du coup, première émission chez soi pour moi. Ouais. J'espère que tout va bien se passer de mon côté.
Bon, j'espère aussi, ouais, bah pour moi, deuxième fois à distance, puis bah j'espère quoi que ça va bien se passer. Hein. Y a pas de raison de toute façon.
Ouais. Ouais, ça devrait bien se passer techniquement. Alors, au sommaire de cette émission, du coup, il y aura une chronique sur les événements internet qui se nomme Il s'est passé quoi, présentée par moi-même. Et nous finirons avec la chronique manga animé qui parle de la présentation d'un animé que vous avez déjà vu, les gars, un animé que vous êtes en train de voir et une actu sur cet univers des animés. Et puis on finira sur la sortie des films et des actus de Rennes. Bien sûr, cette émission sera accompagnée de musique de qualité. Et donc du coup nous pouvons passer tout de suite à la première chronique, il s'est passé quoi, c'est parti, générique.
Internet.
Comment?
Internet. Internet.
David Koudenov.
Ok les gars, du coup dans cette chronique il s'est passé quoi, je vais vous parler du coup de il s'est passé quoi sur internet et aujourd'hui je vais vous parler de Yahoo et de Google. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de Yahoo? Et bien en fait pour les utilisateurs de comptes gratuits Yahoo, un petit changement est à prévoir dans les prochains mois. En effet, la filiale de Verizon vient d'annoncer discrètement, mais très discrètement, que la fonction de transfert automatique des mails Yahoo vers des comptes tiers comme Gmail cesserait d'être gratuit à partir du 1er janvier 2021. En gros, dans un texte sur le centre de support, on peut lire « À partir du 1er janvier 2021, le transfert automatique des mails à partir de votre boîte de réception Yahoo vers un compte de messagerie tiers ne sera plus une fonctionnalité des comptes Yahoo Mail gratuits. » En clair, si vous souhaitez continuer à utiliser ce service, il est impératif, avant la date butoir, du coup, de basculer en mode payant sur Yahoo Mail Pro, et en gros, c'est à partir de 2,60€ par mois, ou de s'inscrire à l'option accès plus transfert qui malheureusement n'est pas disponible en France sauf si vous avez un NordVPN. Et en gros, pour expliquer ce changement, Yahoo met en avant des questions de sécurité. En gros, ils disent nous avons décidé de supprimer cette fonctionnalité afin que des comptes Yahoo Mail gratuits restent sécurisés. Et ça, on peut lire ça du coup sur leur communiqué. Et il est vrai que par le passé, le service de messagerie a été le détecteur de records de violations de données avec plus de 1 milliard de comptes exposés. Derrière l'excuse de la sécurité se cache surtout aussi un besoin pour Verizon de rentabiliser son achat. Parce qu'il faut avoir de la thune. En même temps, si c'est gratuit, ils peuvent pas avoir de l'argent, ces grandes compagnies. Et du coup, bah, ils mettent ça payant.
Ouais. Après, c'est...
Donc ça c'était pour...
Ouais, je peux intervenir, j'allais dire que bah, ça fait bizarre quand même de faire payer un service un peu comme ça. C'est pas un peu se tirer une balle dans le pied parce que bah, t'as énormément de moteurs de recherche ou autres qui proposent bah, ces services plus ou moins gratuitement. Donc d'aller payer pour des services de moteurs de recherche, je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont prêts à ça.
Ouais, bah ça après, ça dépend en fait... des personnes, il y en a du coup qui vont se dire bon, 2,60€ par mois je peux passer en pro, mais c'est vrai que beaucoup de personnes de type lambda qui n'ont pas forcément envie de payer vont à mon avis changer d'adresse mail.
Bah oui, surtout que bon, Yahoo c'est pas non plus genre ouais, t'aurais ça, Orange ouais. Ou Gmail qui ferait ça, il y a forcément des gens qui seraient capables de l'acheter, genre bon, c'est des, comment dire, c'est des gros, bah Orange en France je dis, mais Yahoo, je vois mal des gens payer pour rester sur Yahoo.
Non, c'est sûr. Bah après, moi je connais personne personnellement qui est sur Yahoo. Mais, Mais on sait jamais, ça se trouve, il y a des personnes qui sont
là.
Ah, c'est trop bien et tout.
Trop bien, et en plus, mais c'est bon. Payant.
Wouh!
Oh, hey, c'est vrai qu'il y a bien des gens.
Ils ont pas Gmail alors que c'est gratuit.
C'est vrai qu'il y a bien des gens qui achètent Apple, du coup. Il y a des gens qui font du Yahoo.
Mais ne partons pas sur ce débat là, dis-toi, ne partons pas sur ce débat. Donc en parlant d'Apple, hein, entreprise bien américaine, je vais vous parler du coup maintenant de Google, puisque le département américain de la justice, ainsi que 11 États, ils ont finalement décidé de déposer plainte contre Google pour abus de position dominante, une action qui expose le fournisseur à une amende de plusieurs milliards de dollars. Alors en gros, la procédure était bel et bien dans les tuyaux, elle est devenue aujourd'hui réalité. Le département américain de la justice, via le procureur général des États-Unis William Barr, ainsi que 11 États, donc il y a l'Arkansas, la Floride, la Géorgie, l'Indiana, le Commonwealth of Kentucky, la Louisiane, le Mississippi, Missouri, Montana, Caroline du Sud et le Texas, ont déposé une plainte inédite contre Google. Cette dernière vise un abus de pouvoir dominante en fait sur des marchés de la recherche et de la publicité en ligne. Et cette procédure s'annonce comme la plus importante depuis le milieu des années 90, à l'époque où Microsoft avait été sur le gris de la justice américaine. D'ailleurs, il est intéressant de noter que tous les procureurs généraux des États ayant pris part à ces actions appartiennent aux républicains et se réservent par ailleurs la possibilité d'ouvrir une procédure équivalente au niveau local. En plus de la procédure nationale, pardon. Et donc du coup, c'est une utilisation de tactiques anticoncurrentielles selon eux, puisque il y a deux décennies, Google est devenu le chouchou de la Silicon Valley en tant que start-up décousue avec une innovante façon de rechercher sur Internet, Et ce Google est parti depuis longtemps. Et ça, on peut le lire dans, notamment comme accusation, mais on peut lire aussi le Google d'aujourd'hui est un gardien monopoliste de l'Internet et l'une des entreprises les plus riches de la planète avec une valeur marchandise de 1 milliard de dollars et des revenus annuels dépassant 100 milliards de dollars. Pendant de nombreuses années, Google a utilisé des tactiques anticoncurrentielles. Ça, on la connaît tous pour ça aussi. Pendant de nombreuses années, du coup, elle a utilisé des tactiques anticoncurrentielles pour maintenir et étendre ses monopoles sur les marchés des services de recherche générale, de la publicité de recherche et de la publicité textuelle de recherche générale. De son côté, Google a adopté une très étonnante première ligne de défense. En gros, ils disent « Les gens utilisent Google parce qu'ils le souhaitent, pas parce qu'ils y sont contraints ou parce qu'ils ne veulent pas trouver d'alternative. » Par exemple, du coup, en Europe, l'éditeur avait déjà été condamné à une amende record de 4,34 milliards d'euros pour abus de position dominante. Et nul doute que sous le coup de cette procédure, le géant de la recherche et de la publicité en ligne risque encore plus gros sur son marché national. Donc en gros, c'est un dépôt de plainte, comme on avait pu en entendre parler en Europe, et principalement en France, sur abus de pouvoir dominante. Mais voilà, après, comme Google le dit, personne ne l'oblige à l'utiliser. Il y en a bien qui utilisent des nouveaux moteurs de recherche un peu plus sains, comme on peut penser Ecosia, ou comme d'autres moteurs de recherche Yahoo, par exemple.
Mais c'est Quant, ce que je pensais aussi.
Mais ou Quant, ouais. Mais du coup, voilà, après, c'est un débat qui est intéressant, puisque c'est vrai qu'elle a le monopole. C'est dur de faire concurrence avec elle, mais elle oblige pas les gens avec un flingue sous la tempe à utiliser son moteur de recherche. Donc après, c'est vrai que je sais pas ce que vous en pensez, mais
ouais, moi je comprends pas trop du coup. Il l'accuse de quoi, de servir de sa position dominante? C'est genre comme c'est le leader du marché, il s'impose un peu trop et on n'a pas d'autres alternatives, c'est ça?
Ouais, je pense notamment aux États-Unis en fait. Nous en France, on a la chance d'avoir plusieurs moteurs de recherche, style Yahoo, Ecosia, Quant, etc. Mais aux États-Unis, c'est vraiment beaucoup Google. Et du coup, il trouve qu'elle a vraiment trop le monopole et qu'il n'y a pas de concurrence. Et il n'y a pas assez de. On ne laisse pas assez la place aux autres. Parce que je pense qu'il y en a très peu qui savent qu'il y a tel moteur de recherche qui existe, etc. En fait. Du coup, c'est pour ça. Après, il faut savoir aussi que la majorité, comme je l'ai dit, c'est des républicains. Donc, Il y a ça aussi.
Genre, il y a ça.
Non mais je veux dire, c'est pas des démocrates du coup qui vont porter plainte contre une entreprise nationale qui fait énormément de thunasses pour le pays, donc voilà.
Oui, surtout c'est... que bon, genre quand t'as un petit bijou national comme ça, souvent t'essayes d'en prendre soin.
Oui.
Surtout que t'as déjà les Européens qui se sont pris au GAFA. Je suis pas sûr que ce soit vraiment très judicieux d'en remettre une couche. En plus, les pauvres, genre ils ont le défaut d'être trop bons. Oh désolé, on est trop gros. On prend trop de place.
Bah ouais, non, mais bon. Après, au moins si ça peut inciter les gens, bon, je pense pas que ça va faire grand chose, mais bon. On verra par la suite. Je pourrais vous tenir au courant de plus de choses quand la procédure sera vraiment finie et que tout sera explicable, entre guillemets, pourquoi, etc. Enfin bref, en tout cas j'espère que ces petites actus internet vous aurez pu apprendre des nouvelles choses. Et que notamment j'espère que vous êtes les concernés, en tout cas si vous êtes les concernés, en tout cas pour Yahoo, maintenant vous savez que ça va être payant. Et du coup maintenant on va passer tout de suite à la session musique avec Carmen de Stromae et Bot Behind de King of Convenience. Du coup bonne écoute à tous.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi
et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime, et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, comme ça qu'on somme, somme, et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, comme ça qu'on somme, somme.
L'amour est enfant de la consommation, il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
Regarde à toi.
Mais j'en connais déjà les dangers, moi j'ai gardé mon ticket, s'il le faut je vais les changer moi.
Regarde à toi.
Et s'il le faut j'irai me venger moi, cet oiseau de malheur je le mets en cage, je le fais chanter moi.
Regarde à toi.
Un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats. Hey.
si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous, et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime. Again, after several years of separation, moving on, moving around, they will spend this time chasing the other's tail. Sing, oh, 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 oh. I can never belong. On the boat behind, skiffling rag, skiffling rag, shuffling wall, shuffling wall. You're the up tiptoe ballerina on the chorus line. Sing, oh, 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 oh. I can never belong to you. Oh, 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 oh. I can never belong to you.
Nous sommes de retour sur Pulp, votre émission de pop culture, toujours accompagné de mes acolytes Titouan et Justin. Je vous rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que nous sommes tous confinés chacun chez nous, donc c'est une émission à distance et non pas au studio. Je vous rappelle aussi que nous avons parlé juste avant des petites actus internet et que tout de suite nous allons passer à la chronique manga animée présentée par Titouan et Justin. Justin, je te laisse la parole.
Donc donc manga animé, donc qu'est-ce que c'est? Donc on va parler principalement de tout ce qui tourne autour des mangas et des animés. Donc au sommaire d'aujourd'hui, donc Titouan va nous parler donc premièrement d'un animé donc qu'il a vu, puis d'un second temps d'un animé dont la diffusion est en cours et donc qu'il apprécie. Pour finir enfin, moi je parlerai de quelques petites news autour des mangas et des animés.
Oui, du coup, je vais vous présenter deux animés. Alors, le premier, du coup, est un animé qui a déjà été diffusé il y a quelques temps, puisqu'il s'agit de My Teen Romantic Comedy Is Wrong As I Expected. Si on réduit le nom, parce qu'en plus là c'est l'anglais, hein, je parle même pas du japonais. Si on réduit le nom, c'est Oregairu ou My Teen Romantic Comedy Snafu. C'est plus simple. C'est, du coup, c'est un light novel qui a été écrit par Wataru Watari. Et l'anime est sorti la première saison en 2013. Mais la dernière saison, quand même, la troisième, du coup, c'est juillet 2020. Du coup, ça reste assez récent. Alors, on y suit l'histoire de Akigaya Hachiman, du coup, un lycéen japonais. Hein, c'est un slice of life, un peu romantique, hein, évidemment. Et du coup, on y suit son histoire. Alors, je trouve l'histoire plutôt originale, hein, c'est pas comme beaucoup d'animés de ce genre. Parce qu'on a un personnage qui est très, très, très solitaire de base, qui est vraiment en fait l'antipode du personnage qu'on pourrait voir avec beaucoup d'amis. Genre, il est très solitaire et surtout très antipathique en fait. Au début, on l'aime pas trop, c'est pas quelqu'un de populaire dans le lycée et en fait, il le fait un peu exprès. On va le découvrir ensuite. Et du coup, il est vraiment très intéressant. Bon, je vais pas vous cacher qu'il y a aussi un chouette fan service. Hein, on en redemande
toujours. Toujours en
façon. Oui, il y en a toujours. Mais il est super. Alors, pour grosso modo, le speech de base, c'est il va au lycée le premier jour. Et en voulant sauver un chien, il se fait écraser par une voiture.
C'est dommage.
Bon, ouais.
Pardon.
C'est con. Et le voilà, du coup, blessé, il loupe les trois premières semaines de cours. Alors déjà que c'est pas quelqu'un qui est populaire, là il a personne, hein, il a pas d'amis, rien du tout. Et du coup, il développe vraiment une antipathie vers les autres lycéens et la vie étudiante en général, énorme. Et sa prof, qui le considère un peu comme son chouchou, décide de l'inscrire dans ce qui s'appelle un club de volontaires. Mmh. Du coup, le but du club, c'est d'aider les autres. Et c'est là qu'il va y rencontrer deux filles, du coup Yukino et Yui, qui vont se révéler. En fait, on va voir plus tard qu'il les connaissait déjà, mais sans savoir. Mais ça, on va le découvrir. Du coup, vraiment, vraiment super animé. La première et la deuxième saison, moi je les ai trouvées extraordinaires. Bah, extraordinaires, ils sont vraiment très bien. Je trouve que c'est très original. Et la troisième saison, du coup, qui s'est finie il y a quelques semaines, on sent que ça s'est. Moi, j'ai l'impression que ça s'essouffle un peu. Le concept a peut-être arrivé au bout, mais c'était la dernière saison, c'était la saison finale. Et on a une fin qui après que je vous laisserai découvrir, mais une bonne fin, franchement moi j'ai bien aimé, bien qu'un peu triste. Après faut savoir que c'est un animé alors qui va beaucoup plaire une fois qu'on est dedans, mais surtout pour la troisième saison, c'est assez difficile de se mettre dedans dans le sens où ça explore vraiment les relations entre lycéens japonais alors dans leur complexité vraiment au paroxysme. C'est vraiment pour moi, je pense que c'est peut-être d'un point de vue européen c'est un peu plus difficile à comprendre parce que les japonais sont très réservés au niveau de leurs sentiments, etc., et sont beaucoup dans la retenue. Du coup, parfois il y a des moments où genre on va juste être en train de se dire devant son écran mais crache le morceau, genre vas-y. Et mais bon, ça, du coup, il y a des moments, je pense, qui sont un peu difficiles à comprendre, dans le sens où on comprend pas trop la réaction des personnages. Mais ça, c'est surtout la troisième saison. Les deux premières saisons sont vraiment agréables à regarder. Et puis le personnage est vraiment très drôle. C'est très comique. C'est comique que romantique. Genre, moi, les deux côtés m'ont vraiment plu. Dans le sens, le côté comique est vraiment drôle et le côté romantique, tu t'y prends. Hein, vraiment, moi, j'étais vraiment avec mes waifus là, j'étais ah non, ne leur fais pas de mal.
Et petite question, il y a combien d'épisodes par saison?
Ça varie, c'est 12 à 13.
C'est des saisons relativement courtes.
Du coup, en tout, on l'a. C'est normal, entre guillemets, c'est le type banal. Mais du coup, les 3 saisons, ça te donne quand même un bon total de presque 40 épisodes, sachant qu'il y a des OAV, hein, si les gens ont vraiment envie, il y a des OAV. Il y a même un jeu sur PS Vita. si quelqu'un a une PS
Vita. Ah ouais.
La PS Vita.
Ok. Après est-ce qu'elle est disponible en France, je ne sais pas. Et du coup, je vais vous parler du deuxième animé, du coup qui lui est encore en cours. Alors là, je vais parler de Danmachi. Alors pareil, on parle d'une troisième saison là, qui est en cours. Alors c'est un light novel, pareil, inspiré d'un light novel de Fujiro Omori. Je m'excuse déjà d'avance pour les prononciations de nom. Alors l'animé, lui, la première saison est sortie en avril 2015. Du coup là franchement c'est beaucoup plus étalé hein, finalement. Bah beaucoup plus étalé, pas tant que ça en fait, mais ça, moi personnellement j'ai vraiment eu une impression de longueur entre les saisons. Et la dernière saison elle est sortie là en octobre 2020, du coup il y a vraiment pas longtemps. C'est pour ça qu'elle est d'ailleurs toujours en cours. Alors on y suit, alors c'est un monde heroic fantasy. Ça pour le coup le speech est pas très original hein. Où c'est un monde du coup de héros. Où la seule particularité assez originale, c'est que les dieux, du coup monde polythéiste, ont décidé de descendre sur Terre et de vivre avec les humains. Alors,
carrément.
Ouais, alors c'est des divinités inspirées un peu de toutes les religions, à beaucoup de la mythologie grecque. Hein, je vous en citer quelques-uns, genre le dieu principal, la déesse principale dont on va parler, Hestia. Il y a aussi Loki, il y a Hermès, il y a Freya et il y a Apollon. Mais bon, du coup, on voit bien que Loki, là, c'est plutôt mythologie ouais. Nordique. Hein. Et du coup, c'est vraiment intéressant. J'ai bien aimé le concept de base. Et on l'est en fait avec. On suit Belle Cranel. Du coup, Belle, traduit littéralement cloche en anglais. qui est en fait est faible. C'est pas quelqu'un de fort, il est quelqu'un.
D'accord,
quelqu'un
de, juste il est faible.
Non, mais c'est, il est faible non seulement dans les pouvoirs, mais même son apparence. Genre, il a une apparence de faible. Genre,
d'accord,
il est présenté comme ça.
Et victime jusqu'au bout.
Exactement, et du coup, personne le veut dans sa familia. Alors, qu'est-ce que c'est une familia? En fait, c'est un groupe de héros que constituent les dieux autour d'eux.
D'accord.
C'est leur famille, ils appellent ça leur famille, familia. Et personne n'accepte dedans, sauf Hestia qui elle n'a pas de héros parce que personne ne veut intégrer sa famille à elle. Du coup, le groupe de rapide. Exactement, du coup ils se retrouvent tous les deux dans leur groupe et ils marchent plutôt bien. Et on va voir la progression du héros qui bien sûr ne va pas rester faible très longtemps. Et vraiment très très intéressant, surtout sur les deux premières saisons. Pareil, là je trouve que la troisième saison, ça s'essouffle un peu, les enjeux sont pas extraordinaires je trouve, comparé au reste. Il y a une sensation de... En fait, peut-être qu'elle aurait dû se finir à la deuxième saison, dans le sens... le light novel lui continue, ouais. Du coup forcément la fin elle est pas à la deuxième saison, mais je trouve les enjeux vraiment pas terribles à la troisième saison. Alors par contre là du coup évitez de regarder ça avec des personnes trop jeunes ou avec les parents à côté, parce que là au niveau du fanservice ils se sont pas gênés. Vraiment il y a de tout hein. Et voilà, et en fait le but des héros au principal en fait c'est vraiment les héros, du coup les familias descendent dans un donjon, du coup la ville des héros est construite autour d'un donjon qui s'enfonce sous terre. Et en fait ils doivent tuer des monstres pour récupérer des pierres magiques. Et c'est toute l'économie tourne autour de ça.
D'accord.
Et du coup c'est vraiment, je conseille surtout mettez-vous à la saison 1 et 2 qui sont vraiment bien. Surtout que j'adore les chara-design personnellement. Très beau, le mec cheveux blancs, yeux rouges, ça me convient complètement. Vraiment un animé que je conseille, en plus qui est long, du coup c'est pas genre 12 épisodes et puis c'est fini, tu sais. Au moins t'as de la matière. Et c'est encore en cours, du coup pour ceux qui vraiment les mangent, bah, ça permet de limiter un peu et comme ça vous en aurez au moins jusqu'à, je pense, là on est à l'épisode 6. Du coup il en reste au moins 6 ou 7 autres, on a au moins jusqu'à descendre genre. Ouais.
Petite question, c'est vrai que j'ai pas posé pour l'animé d'avant, mais la durée des épisodes, parce que tu sais en général il y en a des 20 minutes, il y en a des plus longs.
Alors la durée des épisodes, bon pareil, hein, là c'est quelque chose d'assez commun, c'est on l'est sur du... Alors pour My Teen Comedy, pour My Teen Romantic Comedy Snafu, on l'est plus près des 20 minutes. Et okay. Parfois on a peut-être une sensation. C'est vrai que parfois on a une sensation un peu de court, genre. Parfois tu te dis putain, que ça, genre on
s'est passé trop vite.
Semaine pour ça. Ouais.
Ouais.
Et par contre, Danmachi, là on est plus sur du 23-24 minutes. Du coup, c'est un peu plus agréable. Surtout que. Il y a, comment dire, il y a pas de. L'ending et l'opening sont un peu plus courts, en tout cas j'ai l'impression. D'accord. Et du coup. Bah, je trouve qu'il y a plus de consistance à l'épisode en soi.
Rappelez ce que c'est l'ending et l'opening pour les gens qui ne connaissent pas du coup.
Bah, l'opening c'est du coup l'ouverture, c'est le générique d'ouverture, et l'ending c'est le générique de fin.
Parfait.
Tout simplement.
C'est bien expliqué.
Avec leur musique et leur graphisme fabuleux. Ah oui, j'ai oublié de parler de ça, c'est les graphismes. C'est... Alors, Danmachi, on l'est sur des graphismes assez banals. Mais en soi qui marche bien, vraiment l'animation est pas mauvaise du tout même. Et du coup c'est assez beau à regarder. Et pour My Teen Romantic Comedy Snafu, on l'est sur une animation plus banale, bah, plus
classique,
plus convenable pour un slice of life. Et par contre les dessins restent assez beaux. Ça c'est agréable, c'est deux animés qui sont vraiment agréables à regarder, je trouve.
D'accord.
Et du coup pour Danmachi, juste voilà. c'est saison 3 là, et c'est la saison finale, ou il y a... Parce que vu que le light novel continue, il peut avoir une potentielle 4ème saison, on sait pas.
Alors le light novel oui continue. Et après, c'est certains animés, parfois, s'ils marchent vraiment très bien. Parce que Danmachi marche bien, hein, contrairement à My Teen Romantic Comedy, qui, lui, je le trouve assez sous-coté en soi. Je trouve que pas beaucoup de gens connaissent. Mais Danmachi marche bien, ça c'est connu. Mais en soi, je pense... Moi, du coup, je ne connais pas la fin. Mais vu comment c'est parti, c'est pas une saison finale. D'accord. C'est franchement, comme je disais, les enjeux sont beaucoup moins importants. Pour terminer, parce que il y a des problématiques qui sont placées dans les premières et deuxièmes saisons qui ont vocation à finalement être résolues. Et là, elles sont loin d'être résolues, et en plus là ils partent sur un autre délire, du coup c'est pas du tout une saison finale, ou en tout cas si ça se finit comme ça, eh bien ce serait bien dommage. Ouais, bah c'est ainsi que je termine la présentation de ces deux animés, et j'espère franchement que ça vous aura donné envie de les voir. Franchement, moi je voulais.
Bah, moi du coup, je pense que je vais aller les regarder. Surtout la première, il n'a pas l'air d'être très long.
Ouais, je vous conseille.
Je regarde Jojo, mais du coup, ça m'empêchera pas du coup de regarder. Surtout que c'est fini, moi j'aime bien les animés qui sont finis, comme ça au moins. T'as pas à attendre en fait.
Et là, c'est une fin. Hein. Il faudra se satisfaire de la fin, et en plus c'est deux styles vraiment différents. D'un côté on a vraiment Slice of Life de lycéen romantique, et l'autre un peu harem, fantasy, aventure, etc., etc.
Ok, du coup merci pour la présentation de ces deux animés. Je laisse la parole à Justin.
Donc du coup pour commencer avec les news, donc on a la marque française de prêt-à-porter Celio qui va sortir une collection donc One Piece. Donc on va pouvoir trouver du coup divers sweats, t-shirts et même des bonnets donc à l'effigie du très célèbre manga d'Eiichiro Oda. Donc voilà, si quelqu'un est intéressé par avoir quelques petits vêtements One Piece, donc il y a cette nouvelle collection de Celio. Sinon on a également la plateforme de VOD Wakanim qui a annoncé une sortie dans l'hexagone du film Demon Slayer, Le Train de l'Infini. Donc qui est un film qui a cartonné au Japon puisqu'il a amassé pas moins de 129 millions d'euros quand même. Et ce, en 3 semaines d'exploitation.
C'est pas mal, ouais.
Donc, ce film est la suite directe de la première saison de Demon Slayer. Mais pour l'instant, on n'a par contre pas de date de sortie en France. On pense probablement à début 2021. Donc voilà, c'est tout pour les petites news de ce côté-là.
Mais du coup, il n'y a toujours pas de nouvelles sur potentiellement si ça va vraiment être une diffusion dans les salles à grande échelle ou si ça va être réduit aux grandes métropoles.
Ouais, ça c'est vrai qu'on n'a pas d'infos non plus. On sait que ça va être diffusé en France, mais on sait pas si ça va être genre dans toutes les salles. Je suis pas sûr que ce sera dans toutes les salles, moi personnellement. Après, on verra. Ouais.
Bah, de toute façon, j'ai envie de vous dire. On a le temps pour retourner au cinéma.
Oui, c'est pas faux.
À mon avis, on pourra bien se tenir au courant quand les salles réouvriront, et je pense que déjà les salles vont essayer de mettre le paquet pour pouvoir ramener le plus de monde possible
c'est
au
vrai.
Cinéma.
C'est...
Bah du coup, merci Justin pour ces petites actus, merci Titouan pour ces découvertes d'animés qui sont bien sympatoches. Du coup, j'espère que vous aussi, vous avez pu découvrir quelque chose et ça vous a donné envie de regarder ces animés-là, même si vous n'êtes pas adepte d'animés ou de manga tout court, hein, c'est toujours intéressant de regarder autre chose pour avoir une autre vision aussi. D'animé ou de film, etc. Voilà, etc. Avoir un peu plus de connaissances, quoi, c'est toujours intéressant. Donc, merci du coup, les gars, pour cette chronique. On va passer du coup maintenant à la session musique, donc portée sur des OST et sur des musiques japonaises. Donc, on part avec la première, c'est Omura par Lisa. Et enfin, donc désolé la prononciation, hein, Shukei no Shakini Mishuru Mono de Danmachi. Et bonne écoute à tous!
Yeah.
Eh bien, nous sommes de retour sur Pulpe, votre émission de pop culture, toujours accompagnée de Titouan et Justin pour cette fin d'émission. Alors du coup, comme d'habitude, je vais vous parler des sorties de films, comme on est en confinement, des sorties de films sur les plateformes de streaming, ainsi que des actus de Rennes. Alors pour commencer les sorties de films sur les plateformes de streaming, pardon, je vais vous parler d'Amazon Prime en premier. Alors je vais vous présenter une saison qui est sortie sur Amazon Prime, là il y a pas longtemps, il y a une semaine à peine. Et donc elle s'appelle Motherland for Salem. Alors en gros le speech c'est, dans cette réalité alternative, les sorcières de Salem ont passé un pacte avec le gouvernement américain 300 ans plus tôt afin d'éviter les bûchers et les persécutions. Du coup dans le futur, elles sont donc entièrement intégrées à la société moderne et la série suit l'histoire de trois jeunes sorcières en formation. Donc en gros voilà, c'est sur ça que va parler cette série, excusez-moi, sur des sorcières à Salem.
Salem. C'est quoi Salem déjà?
Oui, pardon.
C'est Salem.
Salem, c'est une ville.
Ah oui, aux États-Unis.
C'est une ville aux États-Unis. Ouais, la ville de Salem.
C'est une série qui sort.
C'est une série qui sort, ouais, sur Amazon, sur Amazon Prime, Amazon pardon. Prime. Ouais. Alors pour Disney+, je vous ai choisi un petit documentaire qui s'appelle Marvel 616. Alors en gros, c'est une série de documentaires d'anthologie en 8 épisodes qui se nomme du coup Marvel 616, qui plonge les spectateurs dans les dessous de l'univers Marvel. En fait, la série s'intéresse aux passerelles qui relient notre monde à l'univers, en foisonnant des héros riches en histoire, personnages et créateurs. En gros, les épisodes s'intéressent de près au contexte historique, culturel et sociétal des récits Marvel, outre les pionniers de Marvel Comics et les personnages « oubliés » entre guillemets de Marvel 616, évoquent également les célèbres studios de bien d'autres façons. Et en gros, ça permet d'apprendre sur Loki, Thor et tout, qui sont réellement ces personnages, notamment dans la mythologie nordique, puis d'autres héros. Hein. Loki, Thor, c'est les plus connus, mais... Mais en gros voilà, ça, c'est un documentaire qui assez intéressant, moi qui suis fan de Marvel, c'est plutôt cool. Alors du coup maintenant je vais vous passer sur Netflix. Alors sur Netflix en fait je vais vous conseiller une série que je regarde actuellement. C'est une série russe. moi je m'attendais pas à regarder une série russe, mais en fait elle est tombée là dans mes trucs à regarder. Alors du coup je l'ai regardée, en vrai elle est juste vraiment bien. Et en gros elle s'appelle To the Lake, et du coup en gros c'est le synopsis, c'est une mystérieuse épidémie transforme Moscou en une ville fantôme. Il n'y a plus d'électricité, l'argent n'a plus aucune valeur et les rares personnes qui n'ont pas été contaminées par le virus se battent désespérément pour trouver de la nourriture et de l'essence. Et donc en gros on va suivre l'histoire d'un groupe de personnes, donc il y a deux familles en soi, qui vont partir loin de Moscou pour survivre. En fait, durant tout ce périple, on va les suivre, il va y avoir beaucoup de problèmes, entre guillemets. Il va y avoir des rencontres bonnes et mauvaises. Et en fait, juste, t'es vraiment pris dans la série, en fait. Les musiques sont juste vraiment cool. Le scénario est vraiment cool. Et juste que le fait que ça se passe en Russie aussi, moi j'avais jamais vu de série russe. Et en vrai c'est vraiment cool parce que du coup je le regarde en VO aussi. Et on s'adapte très vite à la langue russe et tout. Et non, franchement je vous conseille. C'est comme la série Dark, j'en parlerai la semaine prochaine. Mais je vous conseille en tout cas pour To the Lake. C'est, en plus il n'y a que 8 épisodes,
ah oui, c'est cool,
pour la saison 1.
C'est des gros épisodes.
Donc c'est très court, donc je vous conseille vraiment. Et puis c'est grave intéressant. C'est des épisodes de 50 minutes, ouais. Mais par contre tu vois vraiment pas le temps passer. C'est vraiment tu regardes l'épisode, t'es là, puis ouais, c'est fini. Ok. Donc voilà. Non, vraiment, je vous conseille vraiment, c'est juste trop bien. Et puis tu t'attaches vraiment beaucoup au personnage.
Ok, et c'est une épidémie de quel type?
Je vous conseille cette série.
C'est une grosse épidémie vénère.
Alors,
qui
c'est une épidémie de type Covid-19. Non, en fait, c'est une épidémie qui ressemble un peu au Covid, mais en gros, c'est une épidémie, c'est un virus qui se transmet exactement comme le Covid. Mmh. Donc par l'air, par le toucher, etc. Okay. Sauf que là, par contre, en fait, ça. Ça va toucher l'homme, en gros, du coup il va tousser, ça va toucher ses poumons, ses yeux vont devenir gonflés et rouges, c'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît ceux qui infectés. Sont infectés, et tu vas mourir en fait.
Yes, tout simplement.
Oui, en fait tu meurs. Sauf si, à la rigueur,
sauf si t'es russe, du coup.
T'as des médicaments, on te soigne, etc., et on te tient en vie dans cette maladie, mais justement d'ailleurs, on va.
cette série va parler de ça aussi, de tenir en vie
les personnes malades, ceux qui sont infectés.
Les personnes malades, alors que techniquement, il y en a qui veulent pas. Mais bon, enfin, il y a beaucoup de choses et c'est vraiment intéressant. D'accord. Et en fait, du coup, maintenant, je vais vous parler de, du coup, de ce qui sort sur Salto, hein, la plateforme française. La plateforme française. Alors du coup, c'est Sense of Tumor. Et en gros, c'est une série belge, donc c'est pour ça que je l'ai choisi aussi. C'est une série de nos amis belges, saluée par de nombreux prix, où l'on suit le parcours d'un jeune homme, médecin stagiaire en neurochirurgie, à qui l'avenir sourit, mais qui malheureusement va souffrir d'une tumeur maligne. La réussite de cette production est d'aborder le sujet épineux du cancer en mélangeant tragédie et comédie, tout en finesse. Donc on va suivre vraiment l'histoire d'une personne qui d'un coup, en fait, son destin va changer parce qu'il va être, il va avoir un cancer. Mmh. Et je trouve ça genre juste vraiment intéressant. Puis c'est une série belge aussi, une série que j'ai jamais vue et qui est assez drôle à regarder.
Et du coup, ce neurochirurgien va aller dans un temple un peu bouddhiste et où il va découvrir une pierre et il va se faire appeler Dr. Strange, c'est un truc comme ça, c'est ça, non?
Ça me fait penser aussi un peu à ça. Mais on n'est pas dans Marvel.
C'est rigolo parce que par contre le titre, parce que du coup ça fait un petit mélange de... Ça fait penser un peu à Sense of Humor, tu vois, pour l'humour. Sauf que là, ils ont remplacé par tumeur, quoi, pour tumeur.
Merci, Justin.
Non, mais bah, c'est un peu sombre comme jeu de mots, mais c'est quand même...
Oui, bah, c'est drôle. Ouais, moi, j'adore. Donc voilà, c'est ça. En tout cas, c'était les sorties de films et séries et documentaires sur les plateformes de streaming. Je vous en présenterai d'autres la semaine prochaine. Et maintenant, je vais vous parler des actus de Rennes. Alors, une actu qui me semblait importante, c'est pendant le confinement, du coup, il y a la réouverture des bibliothèques de Rennes en click and collect.
Ah, okay.
En effet, depuis le 6 novembre, il est de nouveau possible d'emprunter des documents dans la bibliothèque municipale, par exemple. Après les restaurants, les commerces, les 11 bibliothèques du quartier de la ville de Rennes et la bibliothèque des Champs Libres proposent désormais un service de click and collect. En effet, depuis le 6 novembre 2020, elles ont ouvert leur guichet uniquement pour le prêt de documents du style livres, CD, DVD, etc. Alors comment ça marche? En fait, les abonnés sélectionnent les documents à partir des catalogues en ligne sur le site des bibliothèques de Rennes, hein, ou sur le site international de la bibliothèque des Champs Libres, et adressent leur demande de prêt par mail, par téléphone ou via un formulaire dédié. On peut emprunter jusqu'à 12 documents. L'abonné est prévenu lorsque sa commande est prête, dans un délai de 5 jours. Il a ensuite 7 jours pour venir la chercher au guichet, muni d'un masque, d'un sac et d'une attestation de déplacement. Il est possible de commander du coup 12 documents de tout type, à savoir pour un prêt d'une durée de 4 semaines prolongeable. Du coup, les horaires d'ouverture, c'est pour à peu près toutes les bibliothèques. C'est le lundi, le retrait de commande n'est possible qu'à la bibliothèque Triangle, de 14h30 à 18h30. Sinon, le mardi, mercredi, c'est de 14h30 à 18h30. Le jeudi, le retrait de commande n'est possible qu'au Champ Libre, de 14h30 à 18h30. Vendredi, 14h30, 18h30. Et samedi, 14h30, 18h. Donc voici les horaires. De toute façon, vous pouvez retrouver ça sur ActuRen aussi sur internet. Voilà, bibliothèque réouvre. C'est comme par exemple la bibliothèque universitaire de Villejean, par exemple, est réouverte aussi pour les étudiants. Et donc après ça, c'est à voir sur le site Université Rennes 2. Donc voici les actus de Rennes. Donc voilà, j'espère que cette émission vous a plu, chers auditeurs, à vous aussi les gars. On se retrouve la semaine prochaine en tout cas pour une nouvelle émission avec de nouvelles actus, de nouvelles chroniques et de nouvelles musiques. Du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine. On va finir en beauté par deux musiques qui nous prolongent directement dans les années 50 et 60 avec Rock Around the Clock et The House of the Rising Sun. Et donc moi je vous dis à la semaine prochaine et au revoir tout le monde. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, if the band slows down, we'll yell.
Way.